Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la une de cette édition, Félix Tshisekedi a achevé hier sa visite de 48 heures à Bounia. Pendant son séjour, le chef de l'État a échangé avec les acteurs sociaux locaux, notamment les partis politiques, les associations des jeunes et des femmes, la société civile, les autorités politico-administratives. Le président de la République s'est dit déterminé à éradiquer complètement les groupes armés qui endeuillent les communautés du Nord Kivu et de l'Ituri. Libération hier samedi à Mbujimayi de 5 étudiants de l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM en sigle. Ces étudiants étaient soupçonnés d'avoir organisé des manifestations le lundi dernier. Manifestations qui ont causé la mort par balle d'un élève du collège Saint-Léon. Le secrétaire général au développement rural est notre invité. Georges Koshy a conduit à Kananga une équipe du comité de pilotage du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la région du centre. Bienvenue à tous. Je le disais à l'instant, le chef de l'État a achevé sa visite de 48 heures à Bounia. Si le président de la République ne s'est pas rendu sur le terrain, comme certains l'auraient souhaité à Beni, Butembo et Bounia, en revanche, partout où il est passé, Félix Tshisekedi a échangé avec les acteurs sociolocaux, notamment les partis politiques, les associations des jeunes et des femmes, la société civile, les autorités politico-militaires, en martelant le même message, sa détermination à éradiquer complètement les groupes armés qui endeuillent les communautés du Nord Kivu et de l'Ituri, où il a été décrété le 6 mai dernier l'état de siège. Charlie Omba revient sur les temps forts de cette visite du chef de l'État dans les deux provinces.
Tout ce que je vais vous dire, c'est que je suis avec vous. Le gouvernement que je chapeaute est avec vous. Vous faites partie du corps de la République et comme le corps humain, lorsqu'il est amputé d'un membre, le corps entier est malade. C'est en ces termes que Félix-Antoine Tshisekedi s'est adressé samedi à Bounia aux différentes couches sociales qu'il recevait avant de clôturer sa visite des 48 heures en Ituri. Comme à Beni et Butembo, le chef de l'État n'a pas non plus pris des bains de foule à Bounia où il était pourtant attendu le samedi à 12h à la tribune officielle de la ville. Mais Félix Tshisekedi s'est adressé aux populations à travers une rencontre télévisée avec les différents acteurs sociaux locaux. Tout en se disant déterminé à mettre un fait à l'activisme des groupes armés qui tuent, pillent et violent les populations civiles, le chef de l'État a cependant regretté, je cite, « la mafia qui gangrène une partie de l'armée et des institutions publiques ». Comptez sur moi, je ne suis pas un président de la République pour les mafieux, mais je suis un président de la République pour les Congolaises et Congolais parce que je veux leur bien-être et je veux que ce pays redresse. Il peut redresser et il va redresser, a-t-il rassuré. Mais conscient qu'une paix, sa développement n'est pas viable, lors de son étape de Beni, Félix Tshisekedi s'est rendu à Kasindi, commune rurale frontalière avec l'Ouganda. Avec son homologue Yoweri Museveni, ils ont lancé des travaux d'asphaltage de la route Kasindi-Beni-Butembo, une route d'intérêt économique qui ouvre la voie à l'Afrique de l'Est et à l'océan Indien. À propos des bavures commises par certains éléments des forces de l'ordre pendant l'état de siège, Félix Tshisekedi a été clair. L'état de siège n'est nullement une occasion de violation des droits humains. Au contraire, a-t-il dit, c'est l'occasion de les protéger. Enfin, le chef de l'État a émis le vœu de voir son successeur être une femme. Mais cela est une autre histoire. Bounia, Charlie Omba, Radio Okapi.
La société civile de l'Ituri se réjouit de la visite du chef de l'État dans cette province. Jean-Marie Ezandra, son coordonnateur intérimaire, l'a dit ce dimanche à Radio Okapi. Il affirme que le président de la République a eu raison de dénoncer les défaillances au sein de l'armée qui minent les efforts pour la traque des groupes rebelles. Jean-Marie Ezandri affirme que la société civile reste déterminée à sensibiliser la population de l'Ituri pour accompagner la vision du chef de l'État pour la restauration de la paix. Jean-Marie Ezandri s'est exprimé au micro de Charlie Omba.
Franchement, ça a été une occasion de valeur, mais nous qui avons eu la chance de les rencontrer à face, et l'avoir écouté, vous avez compris que même si tout le monde n'a pas la même position que moi, c'est monsieur qui fait preuve de la bonne volonté. Il est venu pour l'évaluation. De son arrivée ici à Bounia, ce qu'il a dévoilé, ce qu'aucun président ne pouvait le dire, pour reconnaître les failles qui existent au sein de l'armée, des travaux auxquels s'entend la population iturienne et c'est des Nord-Kivu. Nous devons tracher les lignes de conduite selon les responsabilités.
Le gouverneur de la province de Mai Ndombe, de nouveau sur une chaise éjectable, 13 sur 21 députés, vient de signer une motion de défiance contre le chef de l'exécutif provincial, Mputu Paul Boleilanga. Il lui est reproché l'incompétence notoire et le détournement des deniers publics. Il est attendu lundi 21 juin à l'Assemblée provinciale de Mai Ndombe pour présenter ses moyens de défense devant les élus du peuple. On écoute à ses propos le député provincial Koko Pembe, initiateur de la dite motion, qui explique, il est joint par Irène Boma.
Le problème de reprocher n'est pas un problème d'aujourd'hui. C'est depuis le premier jour quand nous étions à l'Assemblée et que l'Assemblée provinciale a investi Mputu Paul, j'ai déploré une chose, c'était l'incohérence dans son discours. Vous savez, quelqu'un qui vous promet beaucoup de choses, en principe, ne réalise rien. Et aujourd'hui, on est arrivé à ce constat que Mputu Paul n'a même pas les capacités pour pouvoir gérer la province de Mai Ndombe. Aujourd'hui, nous sommes au Mai Ndombe chez nous, on voit que toutes ces ressources ont disparu au profit des discours politiques. C'est ça le résultat. Pour vous, ce ne sont pas des signes d'incompétence que ce gouvernement était complètement incompétent. Il ne pouvait pas gérer la province du Mai Ndombe. Donc, nous devons prendre des mesures conséquentes pour que ces choses-là n'arrivent plus et que notre province puisse se développer. Chez nous, depuis qu'il est là, pratiquement 3 ans aujourd'hui, il n'a même pas inauguré même une petite toilette de 1 mètre carré. Et c'est normal, je pense pas.
Au Kasaï Oriental, libération ce samedi à Mbujimayi de 5 étudiants de l'Institut supérieur des techniques médicales Istem en sigle. Ces étudiants sont ceux qui étaient soupçonnés d'avoir organisé des manifestations le lundi dernier. Manifestations qui ont causé la mort par balle d'un élève du collège Saint-Léon, suivi de plusieurs blessés et des dégâts matériels importants. La décision de leur remise en liberté a été prise ce samedi par le comité provincial de sécurité. Des explications avec Esther Ndalafina.
Après quelques jours d'arrestation, les 5 étudiants de l'Institut supérieur des techniques médicales ont enfin été remis en liberté provisoire ce samedi par le parquet près le tribunal de grande instance de Mbujimayi. Ces étudiants ont été auditionnés pendant 48 heures au commissariat provincial de la police nationale congolaise avant leur transfèrement au parquet où leur dossier a été ouvert. D'après le ministre provincial de l'Intérieur, la décision de leur remise en liberté provisoire a été prise à la réunion du comité provincial de sécurité. Une autre décision importante annoncée à l'issue de la réunion de ce samedi concerne la reprise des cours ce lundi à l'Institut supérieur des techniques médicales après 5 jours de suspension suite aux manifestations organisées lundi dernier par les étudiants de cette institution. Ces derniers réclamaient la passation de la mi-session suspendue depuis quelques jours par les enseignants en colère pour non-paiement des primes de 3 mois et la répartition non équitable faite par les autorités académiques des frais de participation à la mi-session payés par les étudiants. Ces troubles ont causé la mort d'un élève dont le corps a été inhumé le vendredi dernier. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
À Butembo, pendant ce temps, plus de 20 enfants sortis des groupes armés et d'autres enfants vulnérables de la communauté ont reçu le vendredi des kits de réinsertion professionnelle. C'est dans le cadre du projet d'appui à la réinsertion des enfants sortis des groupes armés dans la commune rurale de Lubero et ville de Butembo. Ce projet, financé par la MONUSCO et exécuté par l'ONG Enfants pour l'avenir et le développement, et cette remise des kits intervient après une formation de 6 mois en agriculture, élevage et en mécanique automobile et moto. Florida Kambou pour le reportage.
C'est dans ce sentiment de joie que les bénéficiaires ont reçu ces kits, dont les outils de réparation des véhicules et motos, des roues, de la semence, des poussins, des lapins, une moto triporteur et bien d'autres. Katungu Noela, sorti d'un groupe armé, l'une des bénéficiaires a choisi la formation en mécanique automobile. J'ai suivi la mécanique parce que personne ne connaît son avenir. Je sais déjà réparer quand même. Je peux ouvrir l'amortisseur, je répare les pneus de toutes sortes de véhicules. Je peux faire le vidage du moteur boîte du véhicule. Que ceux qui sont encore en brousse viennent, ils vont témoigner que nous sommes en train d'avancer. D'après Germel Fungula, coordonnateur de l'ONG Enfants pour l'avenir et le développement, les kits ont été remis selon les choix des bénéficiaires.
Ici à Butembo, il y avait 24 bénéficiaires. Nous avons tenu compte de la filière choisie. L'agriculture et l'élevage, la mécanique automobile, la mécanique moto.
La cérémonie s'est déroulée en présence de Folie Somado et Mazro, chef des bureaux intérimaires de la MONUSCO, mais aussi des autorités politiques administrative et la société civile. Ces dernières ont encouragé la MONUSCO à renforcer son appui en vue d'atteindre un plus grand nombre de bénéficiaires qui ont besoin d'aide. Butembo, Florida Kahambu, Radio Okapi.
Nous restons à Butembo, mais nous changeons de registre. Les examens prénuptiaux restent le seul remède pour lutter contre la drépanocytose dans la communauté. C'est le principal enseignement d'une conférence organisée ce samedi à Butembo autour de cette maladie à l'occasion de la journée mondiale célébrée le 19 juin de chaque année. Organisée par le club des étudiants en médecine pour la promotion de la santé de Butembo, cette activité a réuni plus de 100 participants, dont des médecins et étudiants. L'objectif était de sensibiliser la communauté à combattre cette maladie génétique qui est également d'actualité dans cette région. Grâce à Mzati pour le reportage.
Les orateurs ont chacun fait le tour de cette maladie. Ils ont conclu que la prévention restait la solution idéale pour y faire face. Maxime Kambale, président du club des étudiants en médecine pour la promotion de la santé SEMS Butembo, revient ici sur les biens fondés de cette activité.
Notre idée était de pouvoir renforcer le message à toute la population. Nous voulons sensibiliser surtout pour le test prénuptial pourvu que le parent ne donne pas naissance aux enfants qui vont souffrir de cette drépanocytose. Vu que la plupart des fois, le malade meurt trop vite. Nous donnons un conseil pour tout le monde, surtout de fiancer, de faire le test prénuptial et d'accepter le résultat de l'examen qui sera donné.
Mais comment ont réagi les participants? Pour Frank Katimba, par exemple, quel que soit le degré d'amour que j'ai pour ma fiancée, si le résultat des examens est positif, je vais la quitter pour garantir la vie à mes futurs enfants. Il s'en explique.
Même si on se marie par amour, il faut aussi passer aux enfants. Parce que quand on est porteur sain, moi et ma fiancée, si on met au monde, notre enfant sera sûrement drépanocytaire. Mais quel genre de vie on va lui garantir?
Notons également qu'un jeu de questions-réponses a marqué cette conférence. Butembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
Rendons-nous à présent au Maniema où la société orifère du Kivu et du Maniema Sakima vient de réceptionner sept containers des matériels pouvant l'aider à bien travailler, ceci dans le cadre de quitter l'exploitation artisanale des minerais vers l'industriel. Selon le directeur général de Sakima qui séjourne à Kindu pour la réception, la vérification et le déploiement de ces matériels à Kalima, les travaux vont bientôt commencer avec un système semi-mécanisé. Ces équipements vont permettre à cette société de gagner en termes d'échelle d'exploitation et de produire à très grande quantité, une très grande quantité, a conclu Fidel Bassemenane Kasongo au micro de Florence Kizalunga.
Effectivement, je suis à Kindu pour réceptionner plus ou moins 190 tonnes d'équipements qui se trouvent dans 7 conteneurs, vérifier et les déployer principalement à Kalima. Dans ces conteneurs, il y a essentiellement les équipements d'exploitation. Cela veut dire que ce sont des laveries, donc des équipements pour faire une chaîne de la production des graviers jusqu'à arriver à la concentration des minerais. Donc on peut appeler ça laverie ou unité de traitement, pas au sens de traiter les minerais, mais de traiter les graviers qui viennent jusqu'à avoir des minerais plus ou moins concentrés. Et nous sommes en train de rentrer dans l'exploitation minière classique. Au lieu de travailler comme le creuser, le fond avec une pelle, ainsi de suite, nous allons travailler avec ces équipements qui vont nous permettre des excavateurs qui peuvent avoir la capacité de plusieurs 3, 4, 5 tonnes et les mettre dans le système de traitement et arriver à avoir une production plus ou moins industrielle. Donc pratiquement nous allons gagner en termes d'échelle d'exploitation et nous pensons que cela va nous permettre de produire en très grande quantité et à des coûts plus ou moins acceptables.
Signalons que c'est depuis 2004 que la République a repris la Sakima. Elle va produire principalement la cassiterite à Kalima. Au Maniema, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, en collaboration avec son partenaire Francfort, vient d'évaluer leurs activités. Au cours de cette évaluation, il a été recommandé de localiser les postes de patrouille, de construire, recruter des nouveaux agents pour la surveillance et renouveler les matériels. Dans une interview exclusive accordée à Radio Kapi, le chef des sites, le colonel Edmond Kouloukalala, a révélé que ces recommandations, c'est une façon de donner des moyens à ce nouveau mode de gestion pour mieux gérer le parc national de la Lomami. Edmond Kouloukalala le dit à Florence Kizalunga.
Les travaux concernaient l'évaluation, la vision de la stratégie de surveillance de ces parcs. Cette évaluation arrive au moment où la stratégie est à terme, mais également arrive quand on a un nouveau partenaire, la FZS, qui a signé un partenariat public-privé avec l'ICCN. Donc ces recommandations, ces conclusions seront données à l'unité de gestion qui va gérer les parcs prochainement. C'est une façon de donner le moyen à ces nouveaux modes de gestion d'avoir des éléments qu'il faut afin de mieux gérer le parc et toutes les richesses naturelles qui sont en son sein. Les recommandations, il faudrait qu'on puisse d'abord localiser les PP, les postes de patrouille, les construire, recruter des nouvelles unités, des nouveaux agents pour la surveillance, également renouveler tout ce qui est comme matériel. Tout ce qu'on aura comme orientation va s'adapter de telle sorte que les choses aillent de mieux en mieux en faveur de la protection de ces parcs. Les nouveaux partenaires tiendront compte également des projets d'intérêt communautaire pour qu'on puisse arriver à réduire la pauvreté de ces communautés afin qu'elles puissent s'adonner à d'autres activités alternatives que la chasse.
Actualité internationale.
Un haut cadre de l'État islamique au Grand Sahara tué par les forces spéciales françaises, alias Ikarey, a été neutralisé mardi 15 juin vers une localité au sud-ouest de Menaka, dans le nord-est du Mali. Les armées françaises et nigériennes ont mené donc la semaine dernière plusieurs opérations antiterroristes dans cette région malienne frontalière avec le Niger. Une offensive qui a réussi et qui a aussi abouti à l'arrestation de 4 autres cadres de l'EIGS. Alors que Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire jeudi 17 juin, son ancien co-accusé Louis est toujours en phase d'attente, acquitté des mêmes chefs de crimes contre l'humanité le 31 mars dernier par la CPI. Charles Blégoudé réside encore aux Pays-Bas, mais il espère fouler à son tour bientôt le sol ivoirien. Charles Blégoudé avait appelé ses partisans à se joindre à l'accueil populaire de Laurent Gbagbo jeudi via une opération baptisée Akwaba Oudi. Et depuis avril, il avait déclaré dans plusieurs médias demander pardon aux Ivoiriens. Il espère maintenant rentrer au pays pour une tournée de paix et s'investir à nouveau en politique.
L'invité.
Georges Kochi-Guiméa, secrétaire général au développement rural, est notre invité. Georges Kochi a conduit à Kananga une équipe de comité de pilotage du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la région du centre prise. Après avoir visité plusieurs chantiers construits, notamment des points de forage d'eau, le marché construit à Mikalaï, ainsi que les écoles et centres de santé, il se dit satisfait de l'exécution des travaux sur financement de la BAD. Georges Kochi s'entretient avec François Kadima.
Monsieur Georges Kochi, bonjour.
Bonjour, monsieur journaliste.
Vous êtes au Kasaï Central, précisément à Kananga, pour le projet PRISE. Comment vous évaluez les activités exécutées ici dans le cadre de ce projet ?
Comme de coutume, nous sommes le comité de pilotage. Alors, la première partie de cette mission, nous l'avons commencée dans les Kasaï orientales. Nous avons parcouru les Kasaï, la Lomami, et maintenant nous nous retrouvons au niveau du Kasaï central. Le gouvernement a financé à travers la Banque africaine de développement. Les ouvrages sont réalisés. Est-ce que ces ouvrages répondent aux conditions pour lesquelles on a soumissionné par les entreprises? Est-ce que ces ouvrages répondent correctement aux aspirations, aux besoins de la population? Est-ce que ces ouvrages répondent techniquement, conformément aux prescrits de cahier de charge? Donc, c'est pour cela que nous sommes là. Donc, il y a différentes catégories, dans différents profils dans le membre qui compose le comité des pilotages.
Alors, vous avez été à Tambo-Saint-Bernard, à Toubouloukou et également à Luandanda. Alors, les activités exécutées dans le cadre de projets prises sont en marche?
Bien, les travaux vont bon train dans l'ensemble. Quoique bien éventuellement, dans une œuvre humaine, il manque pas des imperfections. Mais globalement, je suis satisfait. Satisfait dans le cadre de la mise en œuvre de ces ouvrages. Mais on constate aussi qu'il y a un retard. Il y a le retard dû aussi à les installations tardives des sociétés qui avaient gagné les marchés. Ça, c'est vrai. Mais il y a aussi et surtout le voie d'accès. Donc, c'est très difficile de se déplacer dans la contrée du Kasaï central. Les routes ne sont pas en très bon état. Vous savez aussi que nous sommes dans un environnement qui est enclavé, notamment les Kasaï, c'est enclavé. Les matériaux doivent venir de loin et tout ça, ça demande une logistique assez importante, ce qui justifie d'ailleurs la lenteur dans l'exécution de certains travaux. Mais globalement, nous sommes satisfaits pour les travaux qui sont déjà faits, prêts. Notamment au niveau de Mikalaï, nous avons vu les marchés qui est terminé, donc il faut tout simplement l'inaugurer. Nous avons vu que le réservoir c'est très avancé. Nous avons vu que les réseaux, l'ensemble du réseau est déjà posé. De même d'ailleurs qu'ici à vers Toubouloukou, donc même les réseaux est déjà posée. On est en pleine construction du marché. Moi, je crois que d'ici quelques temps, tous les travaux seront terminés.
C'est vrai que le projet PRISE vise à améliorer les conditions de vie des populations. Quand vous dites satisfait, vous pensez que la situation a changé? Parce qu'on doit constater sur terrain que les activités ou le projet PRISE impactent sur le quotidien de population.
Il y a deux choses, je distingue deux choses. Il y a d'abord les ouvrages qui sont réalisés. Je suis satisfait par les ouvrages réalisés. Il y a la deuxième chose, hein, parce que ces ouvrages doivent servir à la population. La deuxième partie n'est pas encore réalisée, de telle sorte qu'on n'a pas encore mis à la disposition des bénéficiaires ces ouvrages. Il faut que les ouvrages soient complètement terminés. Mais d'abord, le premier regard que nous jetons sur ça, c'est que est-ce que ces ouvrages sont bien réalisés, techniquement parlant. Est-ce qu'ils sont bien réalisés? C'est ça notre satisfaction, que les ouvrages sont réalisés. La deuxième chose, c'est que quand nous reviendrons pour donner les ouvrages à la population, c'est nous allons évaluer. Ce n'est pas le même jour quand vous donnez les marchés à la population que vous évaluez, que c'est satisfait. Mais non, la satisfaction vient après. La mission qui viendra après, c'est donner les ouvrages à la population. Inaugurer. Troisième chose, c'est évaluer la satisfaction des populations. Est-ce que les populations sont satisfaites par rapport à ces besoins? Ça, c'est une évaluation qui se fait dans la durée. Mais au jour d'aujourd'hui, la satisfaction concerne l'exécution des ouvrages. Donc nous constatons que vous constatez aussi notre satisfaction, c'est par rapport à ça.
Alors, M. Georges Kouchi, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie, M. le journaliste.
Ainsi s'achève ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Richard Junior Kamunga l'a préparé. Dieudonné Nyangasa était à la mise en onde. Ben Kabamba était à la supervision. Je me nomme Nico Kalambay. Je vous donne rendez-vous à 13h pour un bulletin d'information. Nos programmes se poursuivent sur Radio Okapi ainsi que sur notre site web www.radiookapi.net mais aussi sur toutes les plateformes digitales.